de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Un incendie s'est produit dans le quartier des affaires de Beyrouth. La Corée du Sud sécurise un vaccin COVID-19 pour 60% de sa population. Deux avions de combat F-16 patrouillent à la frontière Indonésie-Timor-Leste-Australie. Les négociateurs afghanistan-talibans tiennent leur première réunion face à face. L'ASEAN et le Canada poussent à entamer des négociations sur un accord de libre-échange. Production de masse de vaccins rouges et blancs, c'est le plan du ministère de la Recherche et de la Technologie. Taïwan affirme que le Vatican garantit ses relations avec la Chine sur les questions religieuses. Bonjour Jolitar, voici la nouvelle en complet. Un incendie s'est produit mardi dans un bâtiment historique du quartier des affaires de Beyrouth avant d'être finalement éteint. Selon un officier de la protection civile et le journaliste de Reuters, un incendie a fait rage sur le bâtiment futuriste du front de mer qui est en voie d'achèvement. Le radiodiffuseur libanais Al Jadid avait précédemment montré des images d'épaisses fumées s'élevant du bâtiment. Un journaliste de Reuters a déclaré que l'autre côté du bâtiment brûlait lorsque les pompiers tentaient d'éteindre les flammes. La semaine dernière, de grands incendies ont ravagé le port de Beyrouth, qui a été le lieu d'une explosion dévastatrice le 4 août. La Corée du Sud sécurise un vaccin COVID-19 pour 60% de sa population. La Corée du Sud assurera l'approvisionnement initial du vaccin contre le nouveau coronavirus pour 30 millions de personnes, soit 60% de sa population. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Cheng Sye-kyun lors d'une réunion du cabinet mardi. Alors que les autorités ont déclaré qu'on souhaite en jeter des vaccins à l'ensemble de la population de 52 millions de personnes, l'incertitude entourant l'innocuité, l'efficacité et le développement du vaccin limite les investissements sud-coréens. Chung a déclaré que le gouvernement négocierait avec les organisations internationales compétentes et les fabricants de vaccins pour sécuriser les approvisionnements initiaux du vaccin COVID-19 et en achètera davantage à mesure que le développement se poursuit. En août, la Corée du Sud a annoncé qu'elle rejoindrait l'installation de COVAX. C'est le plan mondial d'attribution des vaccins COVID-19 dirigé par l'Organisation mondiale de la santé OMS visant à aider à acheter et à distribuer des vaccins équitablement. Deux avions de combat F-16 patrouillent à la frontière Indonésie, Timor-Leste et Australie. L'armée aérienne indonésienne a déployé deux unités de ses avions de combat F-16 pour mener des opérations frontalières dans la région de l'est de Nusa Tenggara Est, NTT, qui est directement adjacente au Timor-Leste et à l'Australie. C'est ce qu'a déclaré le colonel de l'aviation Bambang Junior Jupiter, commandant de la base aérienne d'El Tari Kupang. Mardi, au journaliste à Kupang, Nusa Tenggara Est, il a expliqué que la mise en œuvre de l'opération aux frontières s'est déroulée pendant 4 jours consécutifs à partir du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre, sans éteindre le moteur lors de l'atterrissage au hangar de la base aérienne El Tari Kupang pour faire le plein. Bambang a déclaré que l'arrivée des deux avions de combat appartenant à l'armée de l'air indonésienne visait à détecter d'éventuelles violations aériennes par des avions étrangers, y compris des activités illégales menées par des personnes irresponsables dans les eaux territoriales de la province de Nusa Tenggara Est qui borde les deux pays. Bambang a ajouté que pendant le processus d'opération du lundi au mardi 16 septembre, il n'y avait pas eu de violation de souveraineté ou d'actes illégaux de la part des parties irresponsables. Les négociateurs afghanistan-talibans tiennent leur première réunion face à face. Les négociateurs des pour parler de paix en Afghanistan et les talibans ont tenu leur première réunion face à face à Doha mardi, alors que les parties belligérantes tentent de fixer un ordre du jour et un calendrier sur la manière de négocier un accord de paix, alors que les États-Unis retirent leurs troupes. Le porte-parole politique des talibans, Mohammad Naïm, a déclaré à Reuters par téléphone, affirmant que la réunion était générale et qu'aucune question spécifique n'avait été convenue à l'ordre du jour. Un responsable du palais présidentiel afghan a déclaré que la priorité absolue était d'amener les talibans à accepter un cessez-le-feu ou une réduction significative de la violence. La violence s'est poursuivie dans le pays même après le lancement de pourparlers de pays historiques lors de la cérémonie d'ouverture à Doha samedi 12 septembre. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a fait de la fin de la guerre en Afghanistan sa promesse de campagne. Et les États-Unis retireront toutes leurs troupes en mai 2021, sous réserve de certaines garanties de sécurité remplies par les talibans. L'ASEAN et le Canada poussent à entamer des négociations sur un accord de libre-échange. Le gouvernement du Canada et l'Association des nations de l'Asie des Sud-Est asiatiques, ASEAN, encouragent le début de négociations pour un accord de libre-échange ALE entre les deux parties afin de faciliter et d'accroître les activités commerciales. Dans un dialogue virtuel sur la LE entre l'ASEAN et le Canada, qui s'est tenu à Jakarta mardi, l'ambassadeur d'Indonésie au Canada, Abdulkadir Jailani, a expliqué lors de la 9e consultation du ministre de l'économie entre les pays membres de l'ASEAN et le Canada en août dernier Les ministres ont chargé leurs fonctionnaires respectifs d'élaborer des documents de référence. Le document doit identifier les objectifs possibles de la LE, les éléments, sections proposées, y compris les niveaux d'ambition possibles pour chacun des domaines de convergence et de différence, et d'autres considérations pertinentes. Entre-temps, l'ambassadeur du Canada en Indonésie, Cameron McKay, a déclaré qu'à la même occasion, l'ASEAN et le Canada avaient discuté des négociations sur l'accord de libre-échange. Il a également souligné l'importance d'un accord de coopération de libre-échange dans le cadre des efforts des pays pour récupérer l'économie qui a ralenti en raison de la pandémie COVID-19. Production de masse de vaccins rouges et blancs, c'est le plan du ministère de la Recherche et de la Technologie. Le ministère indonésien de la Recherche et de la Technologie, Kemristek, espère que la production de masse du vaccin rouge et blanc pour la prévention de la propagation de COVID-19 pourra commencer en fin de 2021. Cela a été dit par le président du consortium de recherche et d'innovation COVID-19 du ministère indonésien de la Recherche et de la Technologie Kemristek, Ali Gufron Mukti, à Jakarta, mardi 15 septembre. Gufron a déclaré que le prototype de vaccin ou les semences du vaccin rouge et blanc devraient être obtenues au début de 2021. Gufron a déclaré que le ministère indonésien de la Recherche et de la Technologie est optimiste que l'Indonésie sera en mesure de développer un vaccin COVID-19. Jusqu'à présent, les progrès du développement des semences de vaccins rouges et blancs développés par l'Institut Eijkman pour la biologie moléculaire ont atteint 50% d'achèvement. Le développement du vaccin s'est déroulé comme prévu. Le ministère indonésien de la Recherche et de la Technologie soutient diverses institutions ou parties qui développent le vaccin rouge et blanc. Outre l'Institut Eijkman de biologie moléculaire, 4 autres institutions ont également développé le vaccin rouge et blanc. L'Institut indonésien des sciences, l'Université Indonesia, l'Institut de technologie Bandung et l'Université Erlangga. Taïwan affirme que le Vatican garantit ses relations avec la Chine sur les questions religieuses. Le Vatican a demandé à Taïwan de ne pas s'inquiéter de l'extension de l'accord entre le Vatican et la Chine concernant la nomination des évêques, parce que la relation est religieuse et non diplomatique. C'est ce qu'a déclaré mardi la porte-parole du Bureau des Affaires étrangères de Taïwan, Chuan Wu, Taïwan que la Chine considère comme faisant partie de son pays, mais se déclare comme un pays lui-même, a des relations diplomatiques avec seulement 15 pays dans le monde en raison de la pression de la Chine qui a une politique d'une seule Chine. Le Vatican est la seule alliance de Taïwan dans la région européenne. Alors que le pape François a signé une prolongation de l'accord de l'évêque pour 2 ans pour la Chine au Vatican lundi 14 septembre. John Wu a déclaré que Taïwan fait attention à l'interaction du Vatican avec la Chine, tandis que Taïwan et le Vatican maintiennent une communication fluide. Pendant ce temps, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les relations de la Chine avec le Vatican s'étaient améliorées et que la Chine continuait de maintenir les contacts pour s'assurer que des progrès pourraient se produire dans les relations. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade,
porter le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous. Bientôt, je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Avant l'élection présidentielle des États-Unis de novembre ». Chers amis, vous êtes avec moi, Audrey. L'élection présidentielle des États-Unis de 2020 n'est qu'à 2 mois et demi. Le peuple américain élira en novembre un président pour le prochain mandat de 4 ans. On ne sait toujours pas qui dirigera ensuite le pays. Que Donald Trump accède au pouvoir en tant que président pour la 2e fois ou son adversaire démocrate qui le remplacera. Ce qui est certain, c'est que les démocrates et les républicains doivent convaincre le peuple des États-Unis de choisir l'un des candidats. Les progrès de la démocratie dans ces pays se font de plus en plus sentir. Pour assurer les électeurs, les 2 candidats à la présidentielle, le sortant Donald Trump et Joe Biden du Parti démocrate, ont entamé leur campagne. Tous les 2 travaillent dur pour devenir le 46e président des États-Unis. Des observateurs et plusieurs sondages ont désigné Joe Biden comme le candidat favori. Joe Biden, qui dans le passé a accompagné Barack Obama en tant que vice-président, sur la base des résultats de recherche la semaine dernière ou depuis le début de la campagne officielle, montre sa supériorité nationale sur Donald Trump. Malgré cela, les 2 candidats à la présidentielle doivent encore se battre pour gagner dans plusieurs endroits, souvent appelés « swing states » ou bien les « états swing ». Les états swing sont plusieurs états des États-Unis où les électeurs ont tendance à basculer entre les 2 partis à chaque cycle électoral et pourraient déterminer la victoire du candidat à la présidentielle. Sur la base des résultats d'une enquête intermédiaire, les 2 candidats à la présidentielle, Trump et Biden, ont une chance égale de gagner dans ces États. Le Colorado, la Floride, l'Iowa, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Hampshire, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie, la Virginie et la Wisconsin sont souvent considérés comme des États swing où la concurrence est rude. Parallèlement aux campagnes menées par le Parti démocrate et le Parti républicain, les opinions sont généralement exprimées par diverses institutions d'enquête. Des experts et des observateurs prendront également la parole à travers les médias. Les résultats de l'enquête et les opinions ainsi que la couverture médiatique peuvent influencer les choix des gens. Mais il y a 4 ans, les faits ont montré que la méthode et le contenu de la campagne ainsi que l'approche stratégique des électeurs déterminaient largement les résultats des élections. Si en novembre, le candidat du Parti démocrate parvient à remporter la plupart des votes, la politique des États américains, la politique de l'État américain, tant interne qu'externe, serait très susceptible de changer. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons par l'événement du 16 septembre 1982, massacre de Sabra et Shatila. Le massacre de Sabra et Shatila a eu lieu le 16 septembre 1982 à Beyrouth, au Liban, qui était alors occupé par Israël. Le massacre a été perpétré par des milices chrétiennes maronites libanaises contre des réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila. Les forces maronites étaient directement sous le commandement d'Eli Obeika, qui est devenu plus tard membre du Parlement libanais et dans les années 1990 est également devenu ministre du cabinet libanais. Au cours de cet événement, les camps ont été encerclés par des soldats israéliens et les milices ont été envoyées par Israël à la recherche des membres de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. La question de savoir dans quelle mesure Israël est coupable du massacre fait l'objet de nombreuses discussions et n'y être directement responsable. Toutefois, les conclusions montrent que les Israéliens, y compris Ariel Sharon, sont indirectement responsables. L'autre information est sur le protocole de Montréal a été signé le 16 septembre 1987. Le protocole de Montréal est un traité international visant à protéger la couche d'ozone en éliminant la production d'un certain nombre de substances considérées comme responsables de la réduction de la couche d'ozone. Ce traité a été signé le 16 septembre 1987 et est entré en vigueur le 1er janvier 1989. Depuis ce moment, le protocole de Montréal a été révisé à cette reprise, à savoir en 1990 à Londres en Angleterre, en 1991 à Nairobi, en 1992 à Copenhague, en 1993 à Bangkok, en 1995 à Vienne, en 1997 à Montréal et en 1999 à Pékin. À la suite de ces accords internationaux, le trou dans la couche d'ozone en Antarctique s'améliore lentement. Les projections climatiques montrent que la couche d'ozone reviendra au niveau de 1980, entre en 2050 et en 2070. En raison de sa large application et mise en œuvre, le traité est considéré comme un exemple de succès de la coopération internationale. La cible du protocole de Montréal est de restaurer l'appauvrissement de la couche d'ozone jusqu'en 2050 à l'avenir. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la naissance du joueur de badminton indonésien Chandra Wijaya le 16 septembre 1975. Rafael Chandra Wijaya, ou connu sous le nom de Chandra Wijaya, est né à Cirebon, l'ouest de Java, le 16 septembre 1975. Il est un légendaire joueur de badminton indonésien et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2000. Chandra Wijaya est l'un des meilleurs joueurs de double masculin qui a été détenu par l'Indonésie. Il a remporté le prix du joueur mondial de l'année et du Chong Player of the Year Award en 2000 à Sydney avec Tony Gunawan. Ses diverses réalisations sont entre autres le champion All England Championship en 1999, le champion The World Championship en 1997, le champion d'Asie en 1996, le champion The World Grand Prix Championship en 1997, en 1999, en 2000 et le champion de Japan Open en 2000, en 2006 et en 2001. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Thank you.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministère de l'Industrie améliore la qualité de la conception des emballages dans les petites et moyennes industries pour les cosmétiques ». Le ministère de l'Industrie continue d'encourager l'amélioration de la qualité de la conception des emballages pour les petites et moyennes industries, pour les cosmétiques et les produits à base de plantes, afin de produire des produits sûrs et de haute qualité et conformes aux normes pour être commercialisés. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale des petites, moyennes et diverses industries, ICMA, du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsih, à travers un communiqué officiel à Jakarta, lundi. Gati Wibawaningsih a déclaré que la tendance de l'emballage des produits cosmétiques et des produits à base de plantes se développe actuellement pour être respectueuse de l'environnement. Elle a donné un exemple comme la combinaison de bouchons d'emballage naturel ou en color ou non métallique, de bouchons d'emballage en bambou et de plastique recyclé de haute qualité. En outre, les gens ont également tendance à utiliser des produits à base d'ingrédients naturels ou retour à la nature, ouvrant ainsi des opportunités pour les produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels, tels que les produits de spa et les masques faciaux. Afin de suivre cette tendance dans l'amélioration de la qualité de la conception des emballages, la Direction générale des petites, moyennes et diverses industries du ministère de l'Industrie a organisé il y a quelques temps un webinaire sur les tendances de l'emballage des cosmétiques et des produits à base de plantes des petites et moyennes industries. Selon Gati, l'utilisation croissante de cosmétiques et de produits à base de plantes a incité les producteurs à être créatifs dans la conception d'emballages attrayants, de sorte que la fonction principale de l'emballage n'est pas seulement de maintenir le produit, mais l'emballage peut également être un facteur assez important en tant qu'outil de marketing. Elle a ajouté que la demande croissante de produits de beauté et de soins corporels est considérée comme un déclencheur de la croissance de l'industrie cosmétique nationale. Gati a déclaré qu'en fil du temps, l'industrie cosmétique n'est pas seulement un besoin primordial pour les femmes, mais a également commencé à innover dans les produits cosmétiques pour les hommes et les enfants. Gati a ajouté que l'industrie actuelle de l'emballage ne peut être séparée du monde industriel en général. Parallèlement à l'industrialisation croissante qui est entrée dans l'ère industrielle 4.0, l'industrie de l'emballage évolue encore plus vite. Jusqu'en 2019, le ministère de l'Industrie a noté qu'il y avait 797 industries cosmétiques nationales. Ce chiffre est en hausse par rapport à 760 entreprises l'année précédente. Pas moins de 95% de l'industrie cosmétique nationale totale est le secteur des petites et moyennes industries. Sur la base des données de la Fédération indonésienne de l'emballage, les performances de l'industrie de l'emballage en Indonésie devraient augmenter d'environ 6% en 2020 par rapport à la valeur de réalisation de l'année dernière de 98,8 billion rupiah. Sur la base du matériau, 44% des emballages en circulation sont sous forme d'emballage souple, 28% emballage en carton et 14% en plastique rigide. Les caractéristiques des trois emballages en termes d'économie et de durabilité en font un meilleur choix. Gati Wibawaningsih espère qu'en suivant le webinaire sur les tendances de l'emballage, on espère pouvoir augmenter la compétitivité du secteur des petites et moyennes industries, en particulier les producteurs de cosmétiques et de produits à base de plantes. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Kala mendung tiba, awan gelap merayu, sang hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum, pesan damai terjaga di paruh untuk aku, kamu, dan kita.
genggamlah harapan. Ceramah nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu, ingat kau insan terbaik di sini. Oh yeah, tiada yang bisa halangimu, tiada yang mampu hentikanmu, karena kau telah tercipta untuk berjuang. Ceramah nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Ceramah nunggumu bersama yang setia menemani. Oh, langkahmu tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani, kau generasi pemberani, yeah. Kau generasi pemberani.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons les abricotiers en ciel à Bondowoso, en province de Java Est. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, vous n'avez pas besoin d'aller au Pérou pour voir la beauté des arbres colorés rares, car à Bondowoso, il y a une forêt d'arbres en ciel dont les troncs sont colorés. Cette zone a été proposée comme parc zoologique mondial à l'UNESCO pour le domaine de la biologie. La superficie de la forêt d'arc-en-ciel d'environ 23 hectares est incluse dans la zone forestière à usage spécial de Sumberwringin. Cette zone est également utilisée pour des activités de recherche avec des recherches fondamentales ou les recherches principales dans le domaine de l'amélioration des arbres et de la conservation génétique. On l'appelle la forêt d'arc-en-ciel car l'arbre qui porte le nom latin d'Eucalyptus dans la forêt a l'air coloré comme un arc-en-ciel, à savoir vert, jaune, rouge, orangé, à bleuâtre. En biologie, l'Université de Jember, Rendy Setiawan a déclaré que la couleur des troncs d'Eucalyptus est causée par le processus d'oxydation entre le cambium et l'oxygène. Par conséquent, lorsque la sève ou le cambium de la plante se décolle, il y a une gradation de couleur. L'écran d'abord dans la forêt d'arc-en-ciel, second vert, jaune, rouge, orange, bleu foncé, puis brun. Le cycle durera et se répétera toujours tout au long de l'année. L'arbre d'arc-en-ciel ou Eucalyptus deglutta lui-même est une espèce rare. À ce moment, vous ne pouvez trouver que 10 à 15 de ces arbres arc-en-ciel. L'emplacement n'est pas loin de la ville de Bonoiso, à environ 24,6 km. Cette forêt est située dans Padukuhan Karanganyar, le hameau de Dairungan, le village de Sumrawringin, le district de Sumrawringin, la résidence de Bonoiso. Les résidents locaux l'appellent forêt de Bogor. À première vue, cela ressemble aux arbres qui sont peints en couleur. Même en image, cela ressemble au résultat de l'édition Photoshop. En fait, c'est la beauté naturelle qui est présentée par les arbres. L'arc-en-ciel coloré sur les troncs d'arbres provient des écorces qui sont souvent pelées. Les couches d'écorce d'arbres se détachent en alternance. Non seulement colorées, les arbres ont également l'air imposant d'environ 25 mètres de haut. Le caractère de ces arbres est également différent des autres arbres. Il n'y a ni branches ni brindilles. Le tronc de l'arbre est droit et imposant. S'il y a des branches et des brindilles, sont généralement au sommet. C'est juste un peu. La superficie forestière d'Eucalyptus bonoiso existe depuis l'époque hollandaise, précisément autour de 1939. L'endroit n'est pas officiellement ouvert en tant que destination touristique, mais à certains moments, un certain nombre d'étudiants de plusieurs universités sont venus pour faire des recherches. Pendant ce temps, les habitants de Bonoiso et de ses environs utilisent souvent cette zone pour des selfies. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Les arbres d'arc-en-ciel à Bonoiso ». Merci de votre attention. À demain.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Tak pernah ku mengerti dirimu, jawaban di hatiku yang selalu ku cinta. Semestinya kita sama, menobatkan hati di kala jiwa sedang terluka. Berharap kau mengerti diriku yang selalu menginginkanmu, dambaan hatiku. Meski hatimu tak mampu menginginkan aku mencintai diriku. Tak mudah bagiku lupakanmu. Aku hanya ingin mencintamu dan dicinta olehmu. Sungguh tak ada yang lebih meyakinkanku bila ku harus mencintaimu.
cinta olehmu.
Sungguh tak ada yang lebih meyakinkanku.
Bila ku harus mencinta dirimu tanpa
Chance de l'Utard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien. C'est une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Vous êtes avec moi, Audrey. Serge Ami, cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berkunjung ke rumah teman. Berkunjung ke rumah teman. En français, visiter un ami. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Berkunjung ke rumah teman. Berkunjung ke rumah teman. En français, visiter un ami. La situation est chez City, Kevin demande à la mère de City si City est à la maison ou pas. Bonne écoute.
Permisi, Bu.
Iya, Mas.
Ini rumah City, kan?
Iya, benar.
City ada di rumah?
Ada. Mas siapa ya?
Saya teman kuliah City, Bu.
Oh, teman kuliah. Mari masuk.
Chers amis, après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, Berkunjung ke rumah teman. Berkunjung ke rumah teman. En français, visiter un ami. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Bonne écoute. Ini rumah Siti kan? Ini rumah Siti kan? En français, est-ce la maison de Siti? Siti ada di rumah? Siti ada di rumah? Siti est là? Siapa? Siapa? Qui? Teman kuliah. Teman kuliah. Son ami au campus. Mari masuk. Mari masuk. Entrez, s'il vous plaît. Chers amis, le mot kan est une variété de langue parlée qui est l'abréviation du mot bukan. Bukan. En français, pas. Le mot est généralement utilisé dans les phrases interrogatives. Le mot kan dans la phrase interrogative sert à confirmer quelque chose. Ce type de la phrase interrogative ne peut être répondu que par ya. Ya. En français, oui. Ou bien tidak. Tidak. En français, non. Ou bien bukan. Bukan. En français, pas. Voici quelques exemples. Didi. Kamu jadi mampir ke rumahku kan? Kamu jadi mampir ke rumahku kan? En français. Alors, Tu t'es arrêté chez moi, non?
Mei. Iya, jadi setelah makan siang ya. Iya, jadi setelah makan siang ya.
Oui, bien sûr. Après le déjeuner, ça va?
Deuxième exemple.
Dina. Kamu yang mengambil pensilku kan? Kamu yang mengambil pensilku kan?
En français, tu as pris mon crayon, non?
Rizky. Bukan aku, Din. Bukan aku, Din.
Non, pas moi, Dina.
Troisième exemple.
Nida.
Hatta, kamu tahu rumah Sinta kan?
Hatta, kamu tahu rumah Sinta kan?
En français, Hatta, tu connais la maison de Sinta, non?
Hatta.
Tidak, aku tidak tahu. Tidak, aku tidak tahu. Non, je ne la connais pas.
Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Permisi, Bu.
Iya, Mas.
Ini rumah Siti, kan?
Iya, benar.
Siti ada di rumah?
Ada. Mas siapa ya?
Saya teman kuliah Siti, Bu.
Oh, teman kuliah. Mari masuk.
Chers amis, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être toujours fidèle avec nous. Au revoir.
Rasa itu ku
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.